explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
Le temps d'un bivouac.
Bonjour et bienvenue dans notre bivouac. Aujourd'hui, nous partons sur les traces d'un navigateur dont la vie et les écrits ont marqué toute une génération et fait naître bien des vocations. Il est le premier homme à avoir effectué le tour du globe en solitaire et sans escale. Et il l'a fait de la façon la plus romanesque et poétique qui soit. En 1969, notre navigateur, Bernard Moitessier, alors qu'il s'apprête à remporter la première course autour du monde en solitaire et sans escale, renonce à l'argent et à la gloire pour poursuivre sa route parmi les dauphins, les albatros et les poissons volants. Seul, face aux éléments, il apprivoise les courants, affronte les coups de vent, savoure les ciels étoilés. En 10 mois, il va faire une fois et demie le tour du globe sans toucher terre. Une aventure maritime incroyable dont il ressort transformé et qu'il racontera dans un livre, La Longue Route. Ce récit contribuera à faire entrer dans la légende cet amoureux des océans, écologiste avant l'heure, résolument libre et rebelle. Notre invité, l'écrivain de marine Dominique Lebrun, lui consacre un chapitre dans son livre « Éloge passionné des navigateurs » aux éditions Philippe Ray. Cet après-midi, il nous emmène dans le sillage de Bernard Moitessier avec sur le pont pour la réalisation Hélène Couilloum-Jean, Claire Tesser pour la préparation et à la technique, c'est Louis Audebert.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Vous entendez? C'est le bruit de la mer. Ça fait des mois et des mois que je l'écoute, et ça me suffit. On a l'impression que c'est toujours le même bruit, mais je vous assure, elle me dit des tas de choses que je commence seulement à comprendre un peu maintenant. Et vous voyez, eh ben, c'est pour ça que je continue. Et il faut aller plus loin, vous voyez. Ça suffit pas, il faut aller plus loin.
Bonjour Dominique Lebrun.
Bonjour.
On entendait la voix de Bernard Moitessier enregistrée sur son petit magnétophone lors de ce fameux tour du monde en solitaire. On le sent presque grisé hein, par l'océan avec cette envie de poursuivre quoi qu'il arrive, coûte que coûte. Vous comprenez, vous, le marin, Dominique Lebrun, ce sentiment de vouloir toujours poursuivre sa route?
C'est peut-être pas poursuivre sa route, c'est se trouver sur une route qui est idéale et continuer à se laisser porter. Là, le mouvement de la mer, le bruit de la mer qu'on entendait, c'est frappant parce que en mer, on écoute peu la mer finalement. Ouais. On a le vent dans les oreilles, il y a le vent dans les voiles, des vibrations, des claquements quelquefois qui sont plutôt des mauvais signes. Mais la mer sereine qui nous donne à entendre là, c'est quelque chose de très très rare. Et en fait, c'est porteur d'un message. Oui, effectivement, il y a quelque chose qui nous dépasse. On peut se laisser emporter par la mer. Maintenant, faut encore en être capable. Ouais. Il était.
Oui, on verra. Hein, cette petite précaution d'usage que vous prenez, on verra. Elle a tout son sens. On le verra dans la suite de cette émission. Alors, cette course dans laquelle Moitessier se lance en 1968, c'était une première. Jamais personne au monde à cette époque, hein, c'est pas si lointain, 1968, jamais personne n'avait fait le tour du monde en solitaire et sans escale.
Ça paraissait déjà, d'un point de vue simplement méthodologique et technique, impossible. Ça veut dire partir pour un an de vivres, ouais. Un an de provisions, un an de boissons, d'eau. Ouais. Et à l'époque, les bateaux n'allaient pas vite. À l'époque, c'est de l'ordre de un an que l'on met à faire le tour du monde en solitaire à la voile tel que ça s'est fait avec cette course. Mmh. Aujourd'hui, c'est quelques mois seulement. Et donc, la question était de savoir, est-ce que c'est seulement possible? Ouais. Ça nous ramène un peu à Jules Verne, au tour du monde en 80
ans. Ouais, c'est un vrai défi. Et c'est un journal qui lance ce défi.
Alors oui, et ça met d'ailleurs Moitessier très en colère, parce que Moitessier avait fait une très belle croisière auparavant, ouais. De Tahiti à Alicante avec son épouse, tous les deux avaient fait une croisière sans faute et sans escale, ouais. Et du coup Bernard Moitessier s'était dit, emporté par cette idée d'aller encore plus loin, comme on disait tout à l'heure, et si je faisais le tour du monde en solitaire?
C'est-à-dire, quand vous dites une croisière, c'était déjà un sacré périple. Il était allé jusqu'au Galapagos en passant par le canal du Panama et il était revenu ensuite,
absolument.
Cette fois-ci en doublant le Cap Horn. Hein, donc par
vous dessinez la carte.
Oui, avec les mains, juste pour
avec
vous.
Avec les mains, c'est merveilleux. Oui, alors c'était une croisière magnifique, ouais. Mais à l'époque, ça c'était en revanche quelque chose qui était concevable. Ouais. Et maintenant, rentrer de Tahiti en Espagne, d'une seule traite par le Cap Horn, ça non, ça c'était peu commun. Et donc l'idée de faire un tour du monde ensuite, Du coup, ça apparaît comme possible. Ouais. Et un Anglais a la même idée. Et du coup, un quotidien anglais, le Sunday Times, décide d'en faire une course, qui sera donc le Golden Globe.
Ouais, avec un règlement très simple, hein, qui tient en deux lignes.
Ah, c'est ça, les Anglais sont extraordinaires pour ça. Dans l'art de créer quelque chose de simple et d'efficace, vous partez quand vous voulez. D'un port anglais quand même. Vous faites le tour du monde par les trois caps et vous revenez.
Les trois caps, c'est-à-dire on passe d'abord par le cap de Bonne-Espérance.
Sud de l'Afrique donc, le cap Lewin, sud de l'Australie, cap Horn, sud de l'Amérique. Mmh. Alors pourquoi dans ce sens-là? Tout simplement parce que les vents tournent d'ouest en est et vous emportent dans ce sens-là. D'autres l'ont fait dans l'autre sens, remarquez, mais ce n'était pas encore à propos. Donc l'idée, c'est le premier qui fait le tour à gagner et ensuite... Celui qui l'aura fait le plus vite, s'il y a plusieurs concurrents, lui touchera une somme en argent. Le premier recevra, et la récompense est extraordinaire, Golden Globe, un globe en or massif. Extraordinaire.
Ouais. Et celui qui ira le plus vite, lui aura, parce que ce sera pas forcément le même, puisqu'ils parlent pas tous en même
ce
temps.
Ce sera pas forcément. Non, on part quand on veut.
Ouais, on part quand on veut. Donc le premier qui arrive, c'est le globe d'or.
Voilà.
Et puis celui qui est le plus rapide gagne une somme.
Alors, c'est une belle somme, c'est 5000 livres sterling de l'époque, on est en 68. Mmh. À l'époque, un tour du mondiste, donc l'homme qui possède son bateau qui vit dessus, avec 5000 livres sterling, il vit plusieurs années.
Alors lui, Bernard Moitessier voit pas ce pactole d'un si bon œil. Comme vous le dites, au départ, il est un peu contrarié. C'était son projet personnel, un rêve qui s'était fixé. Il avait pas forcément envie d'en faire une compétition et de se mesurer à d'autres navigateurs.
C'est exactement ça. Il n'a pas du tout envie que ça devienne une compétition au sens le plus négatif qu'il peut y avoir dans la compétition, c'est-à-dire l'opposition entre des individus. Mmh. Et effectivement, pendant la course, parce qu'il va la faire, il va s'inquiéter beaucoup des autres, mais non pas pour savoir s'ils sont en train de gagner ou de perdre, mais simplement pour s'inquiéter de leur sécurité.
Ouais. Savoir s'ils vont bien.
Parce que s'ils vont bien.
Il y a des amis. Il a des amis parmi les autres concurrents.
Il s'est fait des amis, oui.
Il faut dire que c'est un amoureux de la mer de longue date. En fait, dès sa plus tendre enfance, il prend plaisir. Alors, où grandit-il, Bernard Moitessier?
Alors justement, pour nous Français, c'est assez extraordinaire en plus, parce que ce n'est pas le petit gamin qui est né dans un port de Bretagne, comme tous les marins sont supposés l'être. Lui, il est né en Indochine, son père était s'occupait d'un port-export, et gamin, il passait ses vacances dans un village de pêcheurs. Donc, il a appris à naviguer avec des pêcheurs vietnamiens. Ouais. Ce qui fait que ses premiers bateaux seront des jonques d'ailleurs. Ouais. Alors ça aussi, c'est extraordinaire. Ouais. Et il va vivre des aventures mémorables qui tiennent précisément au climat, c'est-à-dire la mousson, l'Asie de Sud-Est, qu'on peut avoir dans ces mers-là.
Ouais. C'est-à-dire qu'il va vivre, il va chavirer avec ces jonques. Il en aura plusieurs.
Ouais, il aura droit à tout. Ouais. Il va affronter la mousson pendant 3 mois pour essayer de gagner dans l'Ouest. Au lieu de se dire, c'est pas la peine d'essayer contre la mousson, on n'y arrive pas, mais comme on lui a pas dit, il ne le sait pas, il essaye. Pourquoi pas? Il va s'endormir 2 fois dans 2 croisières différentes sur 2 bateaux différents, et à chaque fois perdre son bateau, mais immédiatement en construire un autre.
Ouais, c'est ça, il construit ses bateaux.
Ah oui, alors il construit ses bateaux. Ouais. Ça aussi, c'est important.
Ouais. Et notamment celui avec lequel il fera ce fameux tour du monde, Joshua, c'est le nom de ce bateau, il va le construire lui-même.
Pas tout à fait. Pas tout à fait. Et là, c'est encore une autre très belle histoire. C'est que un industriel qui s'occupe de construire, si j'ai bonne mémoire, des pelles mécaniques, entendant parler de son projet, Moitessier veut le faire en bois, son bateau, le faire lui-même en bois moulé. Et il lui dit, si vous voulez, je vous le fabrique en acier, ça vous coûtera ce que moi, ça m'aura coûté. L'architecte naval, qui est Jean Knocker, va proposer de dessiner gratuitement ce bateau spécialement conçu pour un tour du monde. Donc Moitessier va avoir, pour l'époque, le bateau absolument idéal, construit idéalement. Alors en revanche, oui, c'est lui qui va s'occuper de l'aménager, c'est lui qui va le gréer, etc. Mmh. Mais il part avec une coque en acier qui est extraordinaire.
Alors, c'est un marin, c'est aussi, on l'entend, un bricoleur, hein, plus qu'un bricoleur, et c'est un écrivain. C'est-à-dire que très tôt, dès 1960, hein, c'est-à-dire que 10 ans avant ce tour du monde, il publie son premier livre, Vagabond des mers, dans lequel il raconte ses premières traversées maritimes. Et c'est un succès, ce premier ouvrage, Vagabond des mers.
C'est un succès. Alors, faut bien situer cette aventure littéraire dans son temps. Ouais. On est dans les débuts de la plaisance, fin des années 50. Moitessier rentre des Antilles où il a perdu son bateau précédent et il a la chance de rencontrer le journaliste et écrivain Jean-Michel Barrault, qui lui dit, si tu veux gagner un peu d'argent, trouve-toi un métier, mais ce que tu pourrais faire, c'est raconter tes aventures, fais un livre. Et donc, Bernard Mattessier va se mettre à écrire. Il ne sait pas qu'il sait écrire. Il écrit et ça fonctionne très bien. Et ce livre va être un succès pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de livres de mer à l'époque. Ouais. Et puis la deuxième, c'est que c'est un vrai bon livre.
C'est un bon livre et ça lui vaut d'être interviewé à la télévision. Et déjà, ses choix de vie et son rapport à la mer intriguent.
Pour vous, c'est une forme de religion, vivre sur un bateau.
Je ne sais pas si on peut appeler ça une religion. C'est plutôt une forme de mode
morale.
De vie.
Vous avez le mépris de l'argent, finalement.
Non, il ne faut pas exagérer. Mais enfin, j'ai le mépris, non pas de l'argent, mais de ce qu'il faut faire pour gagner de l'argent. Et surtout, de ce que l'argent peut vous obliger à faire. Avoir une 4 chevaux Renault, c'est très gentil. C'est même indispensable dans certaines formes d'activité. Mais alors, quand on a cette 4 chevaux Renault, on commence à loucher sur la Dauphine du voisin. Et on se dit, après tout... Or, vous n'en avez pas besoin de cette Dauphine. On crée des besoins inutiles.
En 1960, Bernard Moitessier interviewé par Pierre Dumayet. Faut se remettre dans l'époque. Nous sommes en plein milieu des 30 Glorieuses. Et Moitessier, alors, c'est finalement très actuel. Si on remplace Dauphine par SUV, c'est un discours que l'on entend encore tous les jours. On le sent, il n'est pas du tout sensible aux sirènes de la croissance et de la consommation, Dominique Lebrun.
Ah, il est beaucoup plus fin que ça en plus. Ouais. Ce qu'il a dit, c'est pas l'argent qui me pose problème, c'est ce qu'il faut faire pour en gagner et qu'il devienne obligatoire d'en gagner. Ouais. Et ça, ce garçon, et je me rends compte aujourd'hui quand vous m'en parlez, ouais. Mais il a 20 ans d'avance. Ah ouais. Il a tout compris de ce qui nous attend.
Ouais. Et on comprend qu'il ait donc quelques réticences quand on vient le chercher pour participer à cette course, en lui faisant miroiter certaines sommes d'argent. Finalement, il décide quand même de partir malgré cette compétition. Et cet enjeu financier.
Il est un petit peu cynique même, il dit mais après tout on m'a même pas demandé de dire merci. Et puis après, il y a un renvoi d'ascenseur humain qu'il fait vis-à-vis des techniciens journalistes qu'il a rencontrés. Les gens qui lui ont prêté une caméra, qui lui ont appris à s'en servir, du matériel photo, etc. Et il se dit, ces gens se sont occupés de moi, je leur dois quelque chose.
Alors il se laisse,
et ça, c'est beau.
Il se laisse convaincre effectivement, finalement presque pour l'aventure humaine. Et donc le 22 août 1968, c'est le grand départ dont il gardera un souvenir ému.
Départ de Plymouth, la vedette qui m'accompagne avec Françoise à bord. Elle n'était pas gaie, alors que moi je pétais de joie littéralement.
Pas un peu égoïste. Je sais, mais je pétais de joie quand même à l'idée de faire ce voyage.
Sa femme Françoise est inquiète, lui manifestement ne l'était pas, aucune appréhension. Ce qui peut surprendre quand même, Dominique Lebrun, il faut bien se rendre compte que naviguer à cette époque en solitaire, c'est ne pas avoir de GPS, ne pas avoir de carte météo instantanée qui nous dit où on en est, et en plus, lui refuse d'avoir un poste radio émetteur. Il ne pourra pas communiquer, il ne pourra pas envoyer de messages radio pour dire où il en est s'il a un problème.
Là, vous me posez une question qui me dérange un peu parce que je vais paraître vieux con, mais je vais vous dire que c'est la meilleure solution pour être heureux en mer. Quand on n'a pas à s'inquiéter d'une radio, en plus à l'époque c'est la BLU qui tasse, c'est une espèce de machin qui tient dans un placard énorme, qui consomme un maximum d'électricité, donc il faut fabriquer l'électricité, avoir un groupe électrogène à bord. Et ça marche une fois sur deux, donc j'exagère évidemment, mais quand ça ne marche pas du coup, de l'autre côté à terre on s'inquiète. Pourquoi est-ce qu'il n'envoie pas de message?
Et oui.
Est-ce que c'est parce qu'il ne veut pas envoyer de message, ou est-ce que parce que la machine ne marche pas, ou
est-ce qu'il a un
problème? Parce qu'il a fait naufrage.
Et oui.
Alors du coup, quand on part sans rien, on sait qu'il n'y a rien à attendre, et si quelque chose arrive, parce qu'on a croisé un bateau par exemple, là c'est une bonne nouvelle, mais autrement, pas de nouvelle, bonne nouvelle.
Ouais. Ça paraît quand même un peu incroyable, ces conditions de navigation. Il faut là encore remettre en perspective, nous sommes... fin 68, début 69, c'est à cette période-là que la NASA envoie ses premiers hommes sur la Lune. Et par contre, la navigation, ça se fait encore de façon très rudimentaire.
Oui, c'est rudimentaire, n'exagérons rien, parce que la navigation astronomique marche très très bien. À l'époque, je crois qu'on a déjà les premières calculatrices qui nous permettent de rentrer directement dans un ordinateur qui tient dans la main la hauteur qu'on a observée au sextant. C'est déjà un progrès considérable.
Oui, mais si vous le dites.
Ce que l'on a perdu aujourd'hui, avec le GPS notamment, c'est la magie précisément du point fait en utilisant le soleil ou des étoiles, un sextant, des tables de navigation. Ou encore l'estime, c'est-à-dire ne pas savoir exactement où on est, le calculer et se rendre compte un jour que oui, c'était bien ça, ou bien non, c'était pas du tout ça. On a perdu énormément de ce côté-là.
Bernard Moitessier ne le sait pas encore, peut-être le pressent-il. Il s'apprête à faire la plus longue traversée de sa vie, un voyage qui va le transformer pour le reste de son existence. Vous allez nous raconter, Dominique Lebrun, cette incroyable aventure maritime, le temps d'un bivouac sur France Inter, dans le sillage de Bernard Moitessier.
Saudade, vem me abraçar. Eu não quero amar ninguém. Ninguém, saudade vai, deixa eu descansar. Já não quero amar ninguém, ninguém. Saudade deixa ela esquecer que quis amar. Saudade vem, eu deixei lá toda tua inquietação. Eu deixei lá de lacerado coração. Eu deixei lá um beijo. E deixei lá tua mão. Eu deixei lá, não guardo na memória, cara. Eu deixei lá toda essa história. Eu deixei lá e dói, mas deixa lá, já foi. Saudade vem, vem me abraçar. Eu não quero amar ninguém, ninguém. Saudade vai, deixa eu descansar. Já não quero amar ninguém, ninguém. Saudade deixa ela esquecer que quis amar. Saudade vem. Deixei pra lá, oh, gosta da ingratidão. Deixei pra lá sua frieza. Deixei pra lá triste beleza. Deixei pra trás, todo medo se desfaz. Deixei pra trás, meu caminho é de paz. Fechei teu olhar tristonho. Fechei mais outro sonho. Saudade vem, vem me abraçar, pois não quero amar ninguém, ninguém. Saudade vai, deixa eu descansar. Já não quero amar ninguém, ninguém. Saudade deixa ela esquecer que quis amar. Quero esquecer dessa vez, não volta mais, porque meu pobre coração não aguenta mais. Saudade vem.
Mélodie Gardot qui chante Ningame Ningame, le temps d'un bivouac sur France Inter.
Il s'est beau la nuit.
Ça c'est quelque chose de fantastique, la navigation de nuit. Fantastique, pour la première fois, être dans la nuit et se rendre compte qu'on n'a pas peur. Vous voyez que la nuit est amicale. Les doigts finissent par avoir des yeux. On y voit avec ses doigts. Je ne prends jamais une lampe électrique la nuit. C'est même plus de l'automatisme, c'est de participer intégralement à son bateau. C'est d'être devenu soi-même le bateau. Il n'y a plus un homme et un bateau, il y a un bateau-homme ou un homme-bateau.
Nous sommes en 1968, Bernard Moitessier est en route sur les océans du monde pour un voyage en solitaire et sans escale. Serein, il fait corps avec son bateau. Dominique Lebrun, vous êtes notre invité et je vous voyais acquiescer sur chacun des mots de Bernard Moitessier, cette idée qu'à un moment on fait corps avec son bateau.
Oui, et puis j'acquiesçais surtout à une vérité extraordinaire qu'il nous a appris, lui Moitessier, à nous navigateurs,
ouais.
C'est que la couleur qui se voit le mieux dans la nuit, c'est le noir. C'est lui qui nous a appris ça.
C'est-à-dire, comment ça s'explique ?
Eh bien, c'est qu'en fait, la couleur qui fait le plus de contraste avec la nuit, c'est le noir. Ce n'est pas le blanc, ce n'est pas des couleurs claires, c'est le noir.
Ouais, donc on y voit très bien.
On le voit très bien.
Pourvu qu'il y ait du noir.
Pourvu qu'il y ait du noir. Mais alors, ce qu'il dit, effectivement, l'homme et le bateau, oui, très rapidement, que ce soit au mouvement, que ce soit au son, à tout, il intègre tout ce qui se passe, y compris en dormant.
À quoi ressemble ce bateau, Joshua, auquel il semble si attaché ?
Alors, imaginez une coque qui fait 12 mètres de long, qui est peinte en rouge vif, qui est en acier, avec un petit rouf, donc une cabine qui dépasse, qui est très très solide, avec des hublots très très costauds. C'est un bateau qui est pointu à l'avant et à l'arrière, de façon à ce que lorsque les vagues déferlent dans les hautes latitudes sud, elles s'ouvrent de chaque côté du bateau plutôt que de le pousser dans le tableau arrière et risquer de le faire chavirer cul par-dessus tête, ce qui est arrivé à d'autres bateaux. Il a ce qu'on appelle un bout de dehors sur l'avant, c'est-à-dire un petit mât horizontal qui prolonge la voilure. Il est gréé avec deux mâts, c'est un gréement dit de ketch, le grand mât devant, le petit derrière.
Et à quelle vitesse il évolue avec ce bateau ?
Oh, ça va pas vite.
Ça va pas vite.
Oh, ça va pas vite. Joshua, à mon avis, dans les meilleures vitesses, il doit tenir 8-9 nœuds par cataclysme arrière, et auprès, il doit faire ses 4 nœuds et demi, 5 en montant à 45 degrés du vent. Ouais. Mais à l'époque, ça fait partie de la norme. Hein. D'ailleurs, on dit que l'important, c'est pas d'avoir un bateau qui va vite, puisqu'on est tellement bien en mer.
Oui, c'est ça. Hein. C'était une compétition un peu différente de celle que l'on connaît aujourd'hui.
Oui, et puis, les tenants et aboutissants concernant la vitesse, à part quelques concurrents sur ce Golden Globe qui vont partir avec des trimarans, il y en aura deux, personne ne songe à vitesse. L'idée, c'est de survivre.
Oui, c'est ça. C'est déjà d'aller au bout de cette aventure incroyable.
Absolument.
Du premier tour du monde en solitaire et sans escale. Sur la voile du bateau de Moitessier, il y a un grand chiffre 2 pour l'identifier. Parce qu'on l'a dit, il n'a pas de radio pour émettre, pour donner sa position. Le seul moyen de communication qu'il s'est autorisé avec lui à bord, il a un lance-pierre. Comment compte-t-il s'en servir ?
Oui, alors d'abord, il faut savoir qu'à l'époque, les mers sont plus fréquentées que maintenant de façon globale. Aujourd'hui, on a des routes maritimes fixes, des grands bateaux qui vont très très vite. Mais à l'époque, il y a beaucoup plus de cargos qui font ce qu'on appelle du tramping, c'est-à-dire qui circulent un peu partout et donc que l'on peut rencontrer. Et des bateaux comme Joshua possèdent un jeu de pavillon qu'il hisse, c'est un numéro de code. Le bateau qui voit ça transmet cette information à Londres et Londres transmet à qui de droit savoir que tel bateau était vu à tel endroit.
Le jeu de pavillon, ça signifie
trois lettres.
Si vous me voyez, dites, signalez ma
vous
position.
Vous avez rencontré le bateau portant le pavillon X, XV, XVH par exemple, XVH par exemple, c'est transmis. Alors le lance-pierre, effectivement, l'idée de Moitessier, c'est qu'il transporte des films. Des photos qu'il fait. Et il s'est engagé à essayer de les transmettre à la presse. Donc, lorsqu'il croise un cargo, avec son lance-pierre, il attire l'attention en envoyant quelque chose sur la passerelle, voire éventuellement une ligne très fine qui suit le caillou, le je ne sais pas ce qu'il a pu envoyer.
Pour les faire venir, il utilise un petit miroir pour
alors
faire des jeux
il y a
de
le
lumière.
Miroir, qui est un miroir de détresse et qui permet d'être vu très très loin. Des signaux au miroir, ça se voit à des kilomètres et des kilomètres. Donc à ce moment-là, le cargo se rapproche, on lui offre donc le coup de lance-pierre. Je crois que c'est des écrous qu'il lance.
Ouais.
Je suis pas sûr. Et donc, au bout, il y a une ficelle. Au bout de la ficelle, il y a un conteneur étanche avec des films dedans.
Ouais, c'est ça. Alors, comme moyen de communication, il a vraiment pas fait le plus simple. La première fois qu'il tente de donner de ses nouvelles, nous sommes au milieu de l'Atlantique Sud. Il passe non loin d'une île, l'île Trinidad. Et tel que c'est raconté dans son ouvrage La Longue Route, c'est presque un thriller l'approche de cette île.
Ah oui, le chapitre s'appelle Un dimanche à Trinidad, déjà, c'est quelque chose. Alors l'île Trinidad se trouve à côté de Sala y Gomez, si j'ai bonne mémoire. Ce sont deux petites îles perdues au milieu de l'Atlantique, au large du Brésil.
Ouais.
Il va devoir passer entre les deux. Et là, on a l'idée qu'il va retrouver un peu la société. Il a envie de dire que tout se passe bien, donc montrer ses pavillons. Il a certainement l'envie de voir du monde aussi.
Ouais.
Et ce qui se passe, c'est que cette île semble déserte, alors qu'il la sait peuplée de pêcheurs. Alors il y a des tas d'idées qui lui passent par la tête, et puis finalement, il voit qu'il y a du monde, mais ces gens ne bougent pas. Et il se dit, mais est-ce qu'ils sont hostiles? Est-ce que je les dérange? Est-ce que il sait pas ce qui se passe? Il se rapproche, il ne se passe rien. Il dit bon bah tant pis, je m'en vais. Et au moment où il fait demi-tour, il voit une foule de gens qui arrivent et les gestes qu'il voit, c'est plus des gestes d'accueil, c'est des gestes de désespoir. Il est venu, il est reparti.
Oui. En fait, ils attendaient qu'il accoste. Lui a cru qu'il n'était pas le bienvenu et puis s'est dit qu'est-ce qu'ils ont. En fait, c'est deux solitudes qui se sont croisées, qui ne se sont pas comprises. Il y a quelque chose de très émouvant. En repartant, il est pris d'une sorte de cafard. Il dit j'ai envie de chialer.
Oui. Ouais. C'est terrible parce que c'est une incompréhension pour quelqu'un qui est aussi proche de l'homme dans l'absolu que lui, c'est une déconvenue qui est terrible. Et puis je pense que, en plus ça se passe un dimanche, c'est pas un hasard. Donc je pense que c'est les dimanches de son enfance qui remontent. Ouais. Et effectivement, c'est un moment absolument pathétique.
Alors il reprend sa longue route.
Et puis au large, on oublie.
Voilà, et on oublie. Il arrive pas loin du Cap de Bonne-Espérance. Il retente, cette fois-ci auprès d'un cargo avec son système de lance-pierre, de donner quelques nouvelles. Et là encore, on frôle la catastrophe.
Là, on est même dans la catastrophe, puisque donc Joshua va aborder ce cargo, il va l'aborder de l'avant, et du coup son bout de dehors, qui est un tube d'acier, est tordu. Les dégâts s'arrêtent là. Mais sans ce bout de dehors, Matossi ne peut plus établir sa voilure normale sur l'avant. Mmh. Il faut donc trouver absolument le moyen de remettre droit ce tube d'acier, qui est un truc qui doit faire, je ne sais pas, une dizaine de centimètres de diamètre, c'est quelque chose d'absolument énorme. Et en quelques jours, il va trouver une solution absolument magique. C'est un véritable problème de physique. Alors vous n'allez rien comprendre à ce que je vais expliquer, mais je vais le faire quand même.
Oui, alors faites-le brièvement quand même.
Il installe un tangon qui déborde de la coque. Entre le bout du bout de dehors et le tangon, il met un palan. Le palan, il le renvoie sur un winch à l'arrière et puis il tourne la manivelle du treuil. Et sous ses yeux ébahis, il voit le tube qui se détord et qui se remet tout droit.
Alors ça, c'était la version de spécialiste. Disons que à bord, il va trouver
le moyen de
redresser son tube d'acier. Et puis aussi, le mât était endommagé. Il va réparer son mât.
Il va réparer le mât aussi.
C'est étonnant, l'aplomb. Ça montre à quel point il est déterminé, parce que beaucoup auraient abandonné à ce moment-là. Lui, il trouve, déjà, il ne panique pas. Il trouve la ressource en lui, l'ingéniosité pour remettre son bateau d'aplomb. Il va pouvoir poursuivre sa route. Il vient déjà de passer le Cap de Bonne-Espérance. Il est en bonne voie. Il traverse l'océan Indien, qui est l'un des plus sauvages. Et on se rend compte, au fil des pages, qu'il n'est pas du tout dans une dynamique de course. Il prend le temps, dès que la mer se calme un peu, de regarder les oiseaux, mais aussi de les nourrir, de les reconnaître d'un jour sur l'autre. Il leur donne des petits morceaux de fromage, de beurre salé. Alors apparemment, il ne manque pas de provisions, parce qu'il est très généreux avec tous ces oiseaux.
Justement, oui.
Mais il est vraiment en croisière à ce moment-là. Hein.
Ben, il est obligé d'être en croisière, parce que de toute façon, il n'y a plus de vent.
Ouais.
Et aujourd'hui, les concurrents du Vendée Globe, c'est assez amusant. Lorsqu'ils ont ce genre de situation, ils cherchent à le gérer psychologiquement pour en profiter, pour se reposer intellectuellement. Là, c'est ce que Matossier fait, mais ça prend une échelle supérieure chez lui, parce que les oiseaux deviennent vraiment ses copains. Il reconnaît, je ne sais plus trop quelle espèce, c'est un oiseau qui vient le voir une fois de temps en temps, mais qui revient toujours. Il le reconnaît parce qu'il lui manque une plume sur l'aile gauche, je crois.
C'est ça, mais c'est des observations d'une précision incroyable.
Ah ben, il vit avec eux. Ouais. Il vit avec eux.
Alors, il est dans son élément, Moitessier, entouré de toute cette vie, et il ne se sent pas seul. Il prête même de très belles intentions à ses compagnons de route.
Au passage de la Nouvelle-Zélande, il y avait une centaine de dauphins qui jouaient avec Joshua au début et qui se sont mis à s'énerver. Ils passaient alors par bande de 20, de front. Ils passaient à toute vitesse de l'arrière à l'avant du bateau, à toute vitesse. Et quand ils atteignaient l'avant, ils viraient à angle droit et filaient sur la droite, à toute vitesse. Que je vais dire fera sourire et pas mal de gens peut-être. Mais je me suis aperçu à ce moment-là que le vent avait tourné, sans que je m'en aperçoive, tout doucement. Et que je me dirigeais tout droit vers les cailloux, qui était à 7 ou 8 milles. Autrement dit, si j'étais retourné dans ma cabine, une heure plus tard, j'étais échoué, je perdais mon bateau. J'ai réglé les voiles et pris le bon cap. Et à ce moment, les dauphins se sont calmés. Ils sont devenus normaux. Et l'un d'eux a fait 3 sauts périlleux absolument extraordinaires.
Ces dauphins lui auraient lancé des signaux pour éviter qu'il ne s'échoue. L'histoire ne dit pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, il se sent en harmonie parfaite avec la nature, Dominique Lebrun.
Moi, je veux y croire. Ouais. Alors une précision, si le bateau va sur les rochers, c'est parce qu'à l'époque, les pilotes automatiques ne fonctionnent pas autrement qu'avec le vent. On n'a pas encore inventé le pilote qui fonctionne avec l'électricité. Et effectivement, ça aurait été son troisième naufrage. Mais moi, je veux bien croire à cette histoire, elle me plaît.
Mmh. Oui, c'est vrai qu'elle est belle. Et puis
elle est belle.
Ça montre évidemment son rapport à la nature. En tout cas, puisqu'il vient de passer la Nouvelle-Zélande, il a passé le cap Lewin d'Australie. Comme il avait une bouteille de champagne pour chaque cap, la deuxième bouteille de champagne a été bue. Il ne reste plus que le Cap Horn. À ce stade, Moitessier est encore dans la course. Mais pour combien de temps encore ?
Attendre que le ciel nous tombe dessus, que les anges ne nous parlent plus. Puis un jour, on se dit, le soleil s'est enfui. Attendre que le ciel nous sombre dessus, qu'on devienne triste et aigri. Puis un jour, on ne vit qu'à travers la nuit là, sur cette terre hostile. Va-t-on pouvoir grandir si fragile quand le cœur est blessé? Moi je veux vivre sans regret avant de m'effacer. Attendre que le ciel nous tombe dessus pour comprendre qu'on a tout fait. Se mentir, se cacher, si longtemps je cherchais. Apprends qu'elles sont réelles ces choses invisibles. Le silence ne nous parle plus. Puis un jour, on se dit qu'on n'a pas vraiment vécu. Et le temps qui nous reste n'attend pas. Et tant que je respire, je reste là. Alors viens, on y va. Mais relève-toi, moi j'y crois. Toute cette peine te servira pas si on sortait dehors. Même si j'ai tort, j'ose suivre ma voie.
Attendre, c'était Yael Naïm.
Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé. Sur France Inter.
Nous sommes passés à 5 ou 6 milles dans le nord. Je dis souvent nous, hein, ça c'est Joshua et moi, vous savez, c'est instinctif. Hein. On est tous les deux dans ce coup-là. Hein. Je ne suis pas tout seul et lui non plus n'est pas tout seul. Cette nuit, le coup de vent là, du 3, hein. C'était quelque chose mais de fantastique, il n'y a pas d'autre mot. C'était mais extraordinaire. Il y avait le caca d'abord, hein. Il y avait la merde, le crachat et tout ça. Hein. Et puis le front froid est passé. Toutes les étoiles se sont mises à briller. Il y avait cette lueur dans le sud, la lueur de la banquise. Mais alors, c'était blanc, phosphorescent. On aurait dit qu'on était dans un autre monde. Jésus a donné tout ce qu'il avait dans le ventre. Je ne l'ai jamais vu dans une telle beauté. On aurait dit comme une flamme phosphorescente qui courait dans cette mer énorme, hein, parce que la mer était vraiment énorme. C'était fantastique. Jamais je n'ai aimé mon bateau comme ce jour-là. Jamais il ne m'a donné autant.
Bernard Moitessier, de plus en plus fusionnel avec son bateau Joshua aux alentours du Cap Horn, lors de ce premier tour du monde en solitaire et sans escale, effectué entre 1968 et 1969. Il faut dire que cette voix que l'on entend, il l'a enregistrée sur le bateau. Il avait avec lui un petit magnétophone. D'ailleurs, sur la page Facebook du Temps d'un Bivouac, on voit une photo où on le voit avec ce petit magnétophone d'époque raconter son voyage. Là, on le sent émerveillé, heureux. Pourtant, au passage du Cap Horn, il a été particulièrement secoué, Dominique Lebrun.
Alors, il dit que la mer était énorme, et on l'entend d'ailleurs. Ouais. Et pour qu'on l'entende comme ça, c'est qu'elle est vraiment énorme. Mais il a tellement de journées de mer derrière lui qu'il est complètement acclimaté, il est complètement dans cette ambiance. Et donc, il a pu apprécier ce qui, pour un marin normal, aurait été une tempête abominable. Il a vu autre chose, et ouais. Son récit est extraordinaire. Quand il parle du front froid qui dégage le ciel, des étoiles qui apparaissent, de la lueur sur la banquise, enfin, c'est juste magique.
Ouais. Il a le temps d'apprécier ce qui devrait être un enfer pour bien des marins.
C'est le propre du grand marin, justement, c'est qu'il est arrivé au-dessus de toutes ces contingences-là, qu'il maîtrise totalement, et c'est là qu'on voit bien qu'il va se passer quelque chose et qu'il va pas rentrer.
C'est ça, c'est vraiment au moment du Cap Horn que l'idée de poursuivre, de quitter cette course et de poursuivre sa route commence à prendre forme. Il faut dire qu'à ce moment, il ne sait pas, il n'a pas de nouvelles. Alors, il a une radio pour écouter la BBC ou les choses comme ça, mais peu de nouvelles lui arrivent par ce biais. Donc, il ne sait pas du tout où en sont les autres concurrents. Ils étaient 9 à partir d'Angleterre. Est-ce qu'on peut faire un point sur cette course qui va être complètement d'anthologie? Qu'est-ce qui va se passer pour les autres concurrents?
Alors, les autres concurrents, eux, sont bel et bien des concurrents, d'ailleurs. Moitessier n'est pas vraiment un concurrent. Il avait décidé de le faire, il le fait. Les autres, plus ou moins. Alors, il s'est passé, on va le prendre dans l'autre sens, qu'est-ce qui s'est passé à l'arrivée? Ils partent à 9. Enfin, 9 partent, puisqu'ils partent ensemble. Un seul a fait le tour et est rentré, c'est Robin Doc Johnson, qui va devenir ensuite une sommité dans la plaisance.
Sur les 9, c'est le seul qui rentre, c'est celui qui gagne donc les deux prix.
Il gagne tout. Alors dans les autres, on a des personnages qui ensuite ont fait parler d'eux. Je pense à Shea Bleff, qui est un Anglais colossal, un commando qui ensuite traversera l'Atlantique Nord à l'aviron. On a Ridgway qui va créer une école de l'aventure, qui sera assez connaître. Il y a un Français, qui s'appelle Loïc Fougeron, qui lui aurait dû être plus connu qu'il ne l'a été. C'est une espèce de moitessier aussi, mais il va essayer 3 fois de passer le Horn, 2 fois il va rater, il va faire des naufrages, mais ça restera un très très grand marin quand même.
Ça veut dire que sur les 9, il y en a quand même 4 qui ne dépassent pas l'Atlantique, c'est-à-dire qui ne passent jamais le premier cap, le cap de Bonne-Espérance, en dessous de l'Afrique. Et puis dans le lot, certains étaient partis alors qu'ils ne savaient pas naviguer. On est dans des histoires complètement rocambolesques.
Ah, c'est l'histoire de Donald Crowhurst. Alors là, c'est terrible. Lui, il est parti avec une radio. Ouais. Mais pourquoi faire la radio? Pour faire croire, en envoyant des messages, qu'il est en train de faire la course en tête et qu'il va gagner.
Alors qu'il ne quitte pas l'Atlantique.
Alors qu'il est coincé, en fait, dans le golfe de Guinée, dans la zone équatoriale où il n'y a pas de vent, où il tourne en rond sur lui-même, pratiquement. Et puis, il entre dans un mensonge terrible. Et il finit par se rendre compte qu'il ne pourra pas en sortir et il se suicide.
Et il se suicide. Bon, Moitessier est loin de tout ça. Sa décision est prise. Il enregistre toujours sur son petit magnétophone ce message à destination de son éditeur et ami Jacques Artaud. Une cassette qu'il enverra comme tous les autres messages en les jetant sur les ponts des cargos qu'il croise. Voici ce qu'il enregistre à ce moment-là.
Vraiment, je suis heureux en mer, Jacques. Vous n'avez pas idée à quel point je suis bien. Vous n'en avez pas aidé, c'est formidable. Hein, ça fait 6 mois et des poussières, mais vous n'avez pas aidé de ce que je suis bien tout seul, tranquille. C'est pas toujours rigolo, mais quand c'est beau, mais c'est fantastique, hein, tout ce que j'ai pu sentir. Alors, j'ai pas envie de m'arrêter maintenant. Ce serait une connerie de rentrer en Europe. Je vois pas ce que j'irai foutre en Europe maintenant, vous voyez. Il y a trop de choses qui sont fausses. J'ai fait que cavaler dans ce pays. Je ne me vois pas remonter vers le nord, regagner un continent qui n'est pas le mien. Finalement, je suis né en Asie, j'ai vécu 26 ans, qu'est-ce que vous voulez, je ne peux pas. Je suis marqué par une autre civilisation, vous voyez, la civilisation européenne, ce monde moderne, eh ben, il me fatigue, il me tue, il me crève. Hein.
Il est décidé, non seulement il est bien en mer, mais il réalise à quel point il n'était pas bien en Europe. On entend aussi, Dominique Lebrun, à quel point son enfance en Indochine, l'actuel Vietnam, l'a marqué et cette culture lui manque.
Ah, totalement, l'Occident, généralement parlant, n'est pas fait pour lui. Lui, il vient d'Asie. Mais alors, ce qui est extraordinaire dans ce message, dont j'ignorais l'existence d'ailleurs, il l'envoie à Jacques Artaud, qui est donc son éditeur, parce qu'il y avait derrière ce projet un livre qui sortirait forcément, ouais. il y avait un contrat important. Et ce que je trouve merveilleux, c'est que Moitessier a le courage humain ouais. de dire à son éditeur, donc, vis-à-vis duquel il est engagé, parce qu'il a d'autres livres chez lui, je ne rentre pas. Et ça, c'est une démarche humaine extraordinaire. Ça montre aussi son côté responsable.
Alors, il sait tout de même, en envoyant ces messages, qu'à terre, on ne le comprendra pas. Hein. Il l'écrit dans son livre
ah oui.
La Longue Route. Et là-dessus, il ne se trompe pas. En France, et pour tous ceux qui suivent la course, c'est l'incompréhension, sa famille, ses amis, les médias. Ils sont nombreux à s'inquiéter et à souhaiter que Moitessier change d'avis.
La radio sud-africaine a lancé hier soir un appel aux navigateurs pour qu'ils renoncent à son projet de second tour du monde et regagnent l'Angleterre comme prévu initialement. Le message a été diffusé sur ondes courtes et moyennes dans l'espoir qu'il serait capté par Moitessier, qui se trouve encore, du moins le pense-t-on, à proximité des côtes sud-africaines en route vers l'Australie. Madame Moitessier a également adressé un message à son mari par la radio sud-africaine qui se termine par la phrase « Très surprise ». Ne comprend pas pourquoi décide changement itinéraire. Sur le plan de la logique, la décision de Moitessier ne tient pas, à moins qu'il ait décidé de tenter le plus extraordinaire coup de dé dont on n'ait jamais entendu parler. D'autre part, le fait d'avoir été absolument seul pendant des mois, a-t-il pu, enfin regardons les choses en face, modifier quelque peu son jugement ?
Mais dites-moi, un mot Moitessier ne risque-t-il pas de manquer de vivre ? Et dans quelle mesure ne devrait-on pas intervenir alors ?
Comment dirais-je ? Il faut porter assistance à une personne en péril,
exactement.
C'est connu, mais d'autre part, il a la liberté de continuer sur un autre plan.
Le journaliste Tommy Franklin sur France Inter le 20 mars 1969. On le voit à terre, c'est l'incompréhension totale. Moitessier allait gagner la course. On ne comprend pas, on pense qu'il est devenu fou, on se demande s'il faut intervenir. Il pose des questions presque philosophiques à ses contemporains avec cette démarche.
C'est pas ça, c'est que c'est un dangereux révolutionnaire.
Oui.
En fait, la société ne veut pas imaginer un seul instant que c'est peut-être lui qui a raison et tout le monde qui a tort et qu'il est tellement bien. Mais en même temps, cette course semblait tellement impossible. On imagine que ceux qui se sont engagés dedans et qui essaient d'arriver au bout sont en train de subir le martyre, alors que lui a transcendé tout ça, ça se passe très bien pour lui, et sur le ravitaillement, il ne risque absolument rien non plus.
Ouais,
il est blindé.
Même s'il a distribué une partie de sa nourriture aux oiseaux de passage, il lui en reste. Alors, il a déjà passé les trois caps, il va en repasser deux, c'est-à-dire à nouveau le cap de Bonne-Espérance, puis le cap Lewin en Australie, et il va finir sa course.
Passer au Pacifique.
Son voyage. Voilà,
à Tahiti.
Il aurait bien été plus loin, il aurait bien été jusqu'au Galapagos s'il avait pu.
Oui, ce qui est déjà pas mal, mais en même temps, dans la compréhension populaire de la chose, Tahiti, qui donc cette espèce de fantasme de paradis, ouais. qu'il a là en plus, ça ajoute encore de la dimension extraordinaire à cette décision. Mais je reviens sur la pensée de Françoise qui lui dit « comprends pas ce changement ouais. d'itinéraire ». Elle raisonne en marin. Elle se dit « mais la route prévue, c'était pas ça ».
Oui, et puis en plus, elle a déjà navigué avec
mais
lui.
Oui,
mais là,
oui.
Tout lui échappe. Il surprend tout le monde avec cette décision. Il va mettre ensuite 2 ans pour écrire le récit de cette aventure. Et son livre va donner des envies de voyage à toute une génération, Dominique Lebrun.
Ah oui, alors ça, c'est un phénomène socio-nautique, si j'ose dire. On est après 68. À terre, on a ceux qui vont dans le Larzac élever des chèvres, on a ceux qui partent autour du monde faire donc la route des Indes, et puis on a les navigateurs, les tours du mondiste, qui, sidérés par le discours de Moitessier, se disent « il n'y a qu'à faire pareil ».
Ouais.
Mais le yaka et le faucon, en l'occurrence, ne marchent pas si bien que ça.
Parce qu'il y en a certains qui, là encore, n'avaient jamais pris le temps d'apprendre à naviguer avant de se lancer.
Ah non, alors il y a eu des histoires épouvantables de gens qui ont vendu l'appartement, quitté le boulot, acheté un bateau, qui est souvent un mauvais bateau, qui ont eu le temps à peine de faire un bout de stage de voile, mais pas assez pour avoir le mal de mer, parce que s'ils avaient eu le mal de mer une fois, ils auraient compris quelque chose. Et puis qui partent.
Ouais.
Et là, on a eu une véritable flotte de bateaux à voile de briques et de broc qui traversent l'Atlantique vers les Antilles, départ pour le grand tour du monde.
Ouais, c'est cette histoire que raconte Renaud dans sa fameuse chanson sortie en 1983.
C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Ta-ta-tin. Moi, la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mordi. J'ai troqué mes Santiago et mon cuir un peu zone contre une paire de Dockside et un vieux ciré jaune. J'étais déserter les crasses qui me disaient « Sois prudent, la mer c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. » C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris au dépourvu. Tant pis, j'ai eu si mal au cœur sur la mer en furie. J'ai vomi mon 4 heures et mon minuit aussi. Je me suis cogné partout, j'ai dormi dans des draps mouillés. Ça m'a coûté des sous, c'est de la plaisance. C'est le pied, dès que le vent soufflera, je repartira. Et que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est la mer qui prend l'homme, mais elle prend pas la femme qui préfère la campagne. La mienne m'attend au bord, au bout de la jetée. L'horizon est bien mort dans ses yeux délavés. Assise sur une bite d'amarrage, elle pleure son homme qui la quitte. La mer c'est son malheur, dès que le vent soufflera, je repartira. Et que les vents tourneront, nous nous en allerons. L'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris comme on prend un taxi. Je ferai le tour du monde pour voir à chaque étape si tous les gars du monde veulent bien me lâcher la grappe. J'irai aux quatre vents, foutre un peu le boxon. Jamais les océans n'oublieront mon prénom. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer elle m'a pris et mon bateau aussi. Il est fier mon navire, il est beau mon bateau. C'est un fameux trois mâts, fin comme un oiseau. Les Tabardi, Pajot, Kersauzon et Riguidel naviguent pas sur des cajots ni sur des poubelles. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. Prends la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un vendredi. Ne pleure plus ma mère, ton fils est matelot. Ne pleure plus mon père, je vis au fil de l'eau. Regardez votre enfant, il est parti marin. Je sais, c'est pas marrant, mais c'était mon destin. Dès que le vent soufflera, je repartirai.
Dès que le vent soufflera, dans le temps d'un bivouac consacré au navigateur Bernard Moitessier, c'était Renaud, bien sûr, et la programmation musicale est signée Muriel Pérez.
Disons, avant ce grand voyage, le but de ma vie, en fait, c'était d'être tranquille, de ne pas avoir à travailler, pas faire un travail de bureau ou d'ouvrier. Et c'était en fait d'atteindre ma vitesse de libération, c'est-à-dire avoir assez d'argent de côté pour ne pas avoir de la hantise du pain quotidien. Ça, c'était le but de ma vie. Et pendant ce voyage, j'ai ressenti profondément qu'en fait, je faisais partie de l'humanité. C'était pas moi, ma sale gueule, ma famille, mon petit groupe de copains qui était le plus important, c'était l'ensemble. J'ai changé pendant ce voyage, disons. Je suis parvenu le même.
Bernard Moitessier en 1986 sur RFI, 17 ans après son tour et demi du globe en solitaire et sans escale. Il le dit, cette aventure l'a transformé, il n'est pas revenu le même. Dans quelle mesure, Dominique Lebrun, ce voyage autour du monde a fait de lui un autre homme ?
Je fais un parallèle entre les propos qu'il tient là et son aventure sur cette petite île où la population ne vient pas l'accueillir, ouais. Trinidad. Moitessier, en fait, est un être humain très très riche dans le fond de lui-même, mais quelque part, il se pose une question de sa propre place dans la société. Je pense qu'il est très modeste, en fait.
Mmh. Quel combat il va mener par la suite, Bernard Moitessier ? C'est un écolo avant l'heure ?
Et ce sera un écolo pratique parce qu'il va faire des choses étonnantes. Il ne roule vraiment pas sur l'or, mais il va quand même promettre aux maires de villages français des subventions s'ils plantent des arbres.
Alors il faut préciser,
et il le fait.
Il ne roule pas sur l'or parce que les droits, par exemple, qu'il touche sur son livre qui marche très bien, La Longue Route, il en fait don. D'ailleurs, à la surprise générale, il en fait don en partie au Vatican. Il le donne aussi à une association, les Amis de la Terre.
Absolument,
je crois.
C'est les Amis de la Terre à l'époque. Oui.
Il ne garde jamais. Mais l'argent qu'il gagne, donc forcément il ne roule pas sur l'or. Mais en tout cas, il va mener ses actions pour planter des arbres, et pas n'importe quels arbres, des arbres fruitiers.
Ah,
il
oui.
veut planter des arbres fruitiers.
Alors là, il y aurait peut-être chez lui un petit côté Giono, je pense, ouais. à Que ma joie demeure, ou bien à Regain, des arbres fruitiers. Et effectivement, là, on sent bien l'idée, je plante un arbre, cet arbre pousse, il va donner des fruits, il va repousser, etc. Il a l'idée de la terre qui doit tourner et qui doit continuer à vivre. Mais quand il le dit... Ce n'est pas comme aujourd'hui où on sait que la Terre est en train de tourner et croit à sa perte. Là, à l'époque, c'est encore l'époque où il y a encore quelque chose à faire. Et lui, il le fait. Concrètement, il fait quelque chose. Sur une île, par exemple, dans le Pacifique, il va introduire des chats pour réussir à éradiquer les rats qui sont en train de tuer les cocotiers.
Donc, ça marchera pas du tout.
Ça marchera pas.
Ça marchera pas du tout.
Mais il a essayé. C'est donc, ce n'est pas un causeur, c'est un acteur.
Alors, parmi les marins qu'il a inspirés, on parlait un peu des marins d'eau douce qui se sont lancés sans expérience, mais il y en a d'autres qui ont réussi, il y en a beaucoup. Mais il y a, par exemple, Titouan Lamazou. D'ailleurs, il a fini par le rencontrer, Titouan Lamazou, Bernard Moitessier. Ils se sont côtoyés même pendant quelques temps sur un atoll polynésien. Moitessier venait régulièrement lui rendre visite, des visites qui ont laissé des souvenirs à Titouan Lamazou.
Il s'asseyait en lotus, et puis il sortait son paquet de tabac, il roulait une cigarette, et on prenait un café, et on discutait. Il y avait une chose qui m'a déjà frappé à l'époque, c'était la lumière qu'il avait dans son regard, c'est-à-dire qu'il avait une sorte de bienveillance incroyable. C'est-à-dire que c'est incroyable, on aurait pu penser que... Déjà, moi, j'appartenais quand même, ayant concouru dans le Box Challenge, cette course, c'était déjà de la voile haute technologie, c'était vraiment de la régate, qui n'avait plus grand-chose à voir avec le Golden Globe, sinon le parcours qui était le Tour du Monde. Mais je me souviens que Moitessier disait « Mais vous êtes vraiment des gens formidables, c'est incroyable, c'est extraordinaire ce que vous avez fait, etc. » Moi, j'en étais comme de rond de flanc, parce que je pensais qu'il avait un certain mépris pour ce genre de quête, de victoire, ou de, que lui-même avait renoncé. Pas du tout, pas du tout. En revanche, il pouvait être extrêmement dur. Précédemment, il avait lutté contre les essais nucléaires dans le Pacifique. Si quelqu'un faisait du mal à un arbre, il se mettait vraiment en colère. C'est-à-dire que sa bienveillance, elle avait des limites vis-à-vis de ses contemporains.
Vous me disiez, Dominique Lebrun, c'est important ce qu'ils disent sur les navigateurs qui ont suivi et qui sont restés engagés dans les courses.
Ce qu'il y a surtout, c'est qu'en France, on a toujours tendance à opposer les gens. Ouais. Et là, on oppose Moitessier croiseur à les grands coureurs au large. Mais en fait, on pourrait penser que Moitessier est jaloux de leur succès. Mais non, pas du tout. Il dit, c'est extraordinaire ce que vous faites, les gars.
Ouais. Et puis, il y a aussi, si on s'en prenait à un arbre, dit Titouan Lamazou, là, par contre, sa bienveillance avait des limites. Il y a vraiment quelque chose du personnage de Morel dans Les Racines du Ciel de Romain Gary chez Moitessier, ne serait-ce que dans la description physique. D'ailleurs, parmi les quatre livres qu'il avait emportés à bord de Joshua, je crois qu'il y avait Les Racines.
Je confirme.
Les Racines du Ciel.
Je crois même que j'ai lu Les Racines du Ciel pour avoir trouvé trace de ce texte en Moitessier. Ouais, j'en suis pas sûr.
Il a donné aussi des envies de lire. Quel écrivain était-il, Moitessier, Dominique Lebrun?
Eh bien, on l'a entendu parler, il évoque bien les choses. Et son écriture, je m'en suis rendu compte en le lisant à haute voix, c'est un peu comme ça qu'il faut juger.
Ouais.
Il y a un rythme dans la phrase, il y a un rythme dans les phrases. Et avec très peu de mots, il décrit l'essentiel. Je repense à la description tout à l'heure de ce front froid qui arrive au Cap Horn et le ciel qui s'ouvre d'un seul coup. En quelques mots, moi, il m'a mis dedans. Ouais. Sa puissance d'évocation est exceptionnelle. Surtout pour quelque chose aussi subtil que la mer et le ciel.
Pour qui n'a jamais lu un seul livre de Bernard Moitessier, par quel livre commencer, Dominique Lebrun?
Oh, je ne peux pas dire autre chose que La Longue Route, mais Vagabond des mers du Sud, avec le recul du temps, est un petit chef-d'œuvre de naïveté et d'humidité magnifique.
Ouais. Il y en a un dont il n'était pas fier du tout. C'est celui qu'il a écrit juste avant sa longue route, et c'est en partie, ça montre aussi l'importance qu'il avait pour les mots, c'est en partie pour ça qu'il voulait refaire ce grand voyage, pour pouvoir ensuite écrire un livre, pour effacer celui qu'il avait bâclé juste avant.
Tout à fait, c'est Cap Horn à la voile, où il estimait n'avoir fait que reproduire un journal de bord. suis tenté de dire, quand c'est un journal de bord comme celui-là, ça vaut la peine de le reproduire. Mais, effectivement, il n'en était pas satisfait parce qu'il avait tout le côté philosophique qu'il sentait venir, qui ressort dans la longue route et qu'on retrouve ensuite. Mais à l'époque, il a vraiment envie de le faire, mais en fait, il l'a écrit très vite Capone à la voile, tout simplement parce qu'il avait un contrat et des livres au bout et de l'argent pour acheter ce nouveau bateau.
En 30 secondes, aujourd'hui, qu'est-ce qui reste dans le monde de la mer, des marins, de Bernard Moitessier? Est-ce qu'on parle encore beaucoup de lui? Est-ce qu'il est encore très présent dans les discussions?
Les navigateurs du Vendée Globe, certainement pas, parce que c'est deux générations en eux pratiquement. Mais pour ceux qui ont connu la plaisance à la fin du siècle dernier, ça a été notre maître et ça reste notre maître à tous. Et dans les annexes techniques de la longue route, il y a encore des tas de choses qu'on utilise dans nos navigations quotidiennes.
Bernard Moitessier est mort le 16 juin 1994 d'un cancer. Il est enterré dans un cimetière breton. Merci Dominique Lebrun. Je rappelle le titre de votre livre, Éloge passionné de la navigation, dont un des chapitres est consacré à Bernard Moitessier. Un grand merci. Merci à vous.
C'est moi.
Pour réécouter cette émission et les précédents épisodes en podcast, rendez-vous sur franceinter.fr. Vous pouvez aussi nous envoyer un message sur cette page ou sur la page Facebook du Temps d'un Bivouac sur laquelle vous êtes nombreux à réagir. À samedi prochain pour de nouvelles aventures.